Vous écoutez le Gallicast, le premier podcast français sur Doctor Who. Avec Jonathan, Michel et Thomas.
Bonjour.
Vous n'allez pas me piquer ma place. Vous allez me faire rater. C'est honteux. Maintenant, il va falloir que je recommence. Non, je plaisante. Bonjour et bienvenue pour l'épisode 40 du Gallicast. Aujourd'hui, l'antépénultième épisode avant notre petite pause de Noël.
Ouais.
L'antépénultième, ça veut dire avant-avant-dernier.
Avant, je ne savais pas.
J'aime bien le dire depuis que les inconnus le disent. Non, les nuls, pardon.
Oui, les nuls, ouais.
Aujourd'hui, pas grand-chose. Enfin, si, oui et non. Des news, quelques news c'est intéressantes. Pas,
ouais. Pas
grand-chose, puisqu'on est dans un hiatus. Le double épisode avec les Slevin.
Ouais.
C'est ça,
ouais. Les noms des épisodes, la Troisième Guerre mondiale, et l'autre, c'est...
L'humanité en péril.
L'humanité en péril, voilà.
Voilà, donc c'est bien ça. Et on finira par... la suite de la saison 2 de la série classique, The Dalek Invasion of Earth.
Voilà. Terminé.
Je le fais bien.
Extermination. Voilà.
Alors, pour quelques news, qui commence?
Bah moi.
Bah vas-y.
Voilà. Alors, news. Torchwood Miracle Day a commencé. Hein, déjà. Oui. Et sur NRJ12, la diffusion a commencé. Point de vue VF, c'est une VF basique. Hein, ils reprennent les voix pour Jack Harkness et tout. La voix d'Oswald Dance est bien, par contre celle du Black, bon, j'ai déjà oublié le nom tellement il a un charisme de ouf. Lui, j'ai carrément, enfin, il a une voix mais ridicule, donc voilà, c'est pas quelque chose à retenir. Hein. Comme la saison 4 d'ailleurs.
De toute façon, je sais ce que j'avais dit, que j'en profitais pour la regarder, mais j'ai toujours pas regardé.
Et ouais. Donc quoi. Quoi d'autre aussi, Matt Smith a annoncé sur une émission équivalente Télématin en Angleterre, à savoir BBC Breakfast, qu'un épisode spécial sera diffusé pour les 50 ans, quoi.
Bon, alors c'est une révélation.
Ah ouais, on s'en doutait pas.
Oh, non, pas vrai. Du tout. On s'est dit, ouais. Il va y avoir aucun épisode. C'est
mais bon, on savait qu'il allait avoir un épisode. Après,
mais
on savait pas si ça allait être un.
Je crois aussi que c'est dans cette émission qu'il a dit ah, moi je voudrais faire un épisode avec Nazar.
Ouais.
J'espère juste qu'ils vont nous faire un épisode multi-docteur comme c'est coutume. Et si Steven Moffat nous fait pas ça, sincèrement, il déconne. C'est obligatoire.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Jonathan est un monsieur qui adore le passé, qui ne veut pas vivre avec son temps.
Hein. Non, c'est pas ça, c'est que c'est, ça fait
mais
partie.
Mais on s'en fout des
vieux. Mais non, mais c'est pas ça, l'anniversaire de la série, ça a toujours été un épisode multi-doctor. The Three Doctors, c'est ça. The Five Doctors, c'est ça. The Two Doctors, je suis pas sûr, mais il me semble. Et ensuite, il y a même eu d'autres épisodes. Non, il n'y a rien eu. Non, c'est
ouais. Pas l'histoire avec plusieurs docteurs.
Si c'est pour faire comme l'épisode de 1993, crois-moi, c'est pas utile. Hein.
Bah, c'est sûr que comme ça. Non, s'il nous faut un épisode pour les 50 ans, ils vont de toute façon nous faire un épisode de moins d'une heure.
Ouais.
Ça, c'est obligatoire. Je dirais même presque une heure et demie s'ils nous font le truc. Ils nous feront peut-être un truc à la The Five Doctors, mais peut-être sans les autres.
J'espère c'est un peu logique.
J'espère juste qu'ils seront là, enfin qu'il y aura d'autres docteurs, parce que sinon.
Oh, je pense que ça pourrait. Mais je pense, de toute façon, Moffat est un fan, donc je pense qu'il.
Oui, mais quand on voit ce qu'il nous a fait avec la saison 6.
Elle est bien, la saison 6. Arrête, elle est bien. Elle est pas.
Ouais.
C'est pas
elle
ce qu'il y a
bien,
de mieux.
Ouais.
Eh, saison 6 de Doctor Who ou saison 4 de Torchwood? On est d'accord.
Attends, j'ai pas répondu.
On est d'accord.
J'hésite.
Ah bon? Ouais. Non, là, mais tu m'étonnes.
Demande si ça sera un épisode multi-docteur. Les anciens docteurs ont pas mal vieilli. Qu'est-ce qu'il va inventer comme excuse
Tu sais, ça a jamais été prétexté. Hein. Enfin, je veux dire, on a toujours vu qu'ils vieillissaient malgré le fait qu'ils étaient morts. Enfin,
non, mais par exemple, pour Crash Time, t'avais sorti, c'était un problème de.
Ouais, dû au TARDIS, oui, c'est parce que son temps. Oui, les deux TARDIS se sont rencontrés à des temps différents.
Oui, donc ils se mettaient à jour.
Voilà. Ouais. Il fallait.
Peut-être qu'il y aura une histoire comme ça.
Hein. Ouais, ils vont nous sortir quelque chose de con. Qu'est-ce que j'ai dit?
On sait pas, c'est le.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui.
Je vais raconter le synopsis de l'épisode de Noël. The Doctors, The Widow, and The Wardrobe.
C'est donc, le docteur, la veuve et la garde-robe.
Voilà. Qui apparemment il y aura des petites références au monde de Narnia. Après,
non.
Je n'ai jamais regardé ce film et vous me direz, heureusement, apparemment, il vaut pas le coup. Ils ne valent pas le coup. Je sais pas si on a plusieurs.
Bizarrement, moi, quand j'avais jamais lu le roman, quand j'ai vu le premier Narnia, j'ai trouvé ça mais vachement horrible, très nul. Et là, après, j'ai retrouvé un ami qui, lui, a lu le roman et m'a dit « Ah non, c'est fidèle au roman. C'est très fidèle au roman. »
Donc, tu sais à quoi
le roman aussi, en fait, le roman aussi pourri que le film, quoi.
Ok,
donc,
c'est une question d'avis. Bon, en tout cas, personne m'a dit qu'il était bien, que le scénario était bien. Hein.
Disons qu'il a jamais eu un énorme succès, la preuve, puisque c'est même pas Walt Disney qui a produit le dernier.
Ouais. Donc alors, on va quand même dire le synopsis, il serait temps. Donc je vais reprendre un synopsis, je l'ai pas écrit moi-même, vu que je ne parle pas très bien anglais, donc on va reprendre celui de Tardib qui est très très bien. Donc, vous le voici, c'est le réveillon de Noël 1938, quand Madge Harwell vient en aide à un ange astronaute tandis qu'elle rentrait chez elle. Il lui promet de la remercier pour sa gentillesse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est faire un vœu. 3 ans plus tard, une Madge dévastée s'échappe de Londres en pleine guerre avec ses 2 enfants vers une maison délabrée située dans le Dorset. Elle est paralysée par la douleur suite aux nouvelles que son mari a été perdu sur le canal, mais reste déterminée à donner à Lily et Cyril le meilleur Noël qu'ils n'ont jamais eu. Les Harwell sont surpris d'être accueillis par un gardien fou dont le mystérieux cadeau de Noël mène vers un monde hivernal et magique. Là-bas, Madge apprendra à être plus brave qu'elle ne l'aurait jamais pensé, et que les vœux peuvent devenir réalité.
Bon, ils nous font un épisode de Noël.
Voilà, tout simplement.
Ce qu'on peut deviner, c'est dans le monde de Narnia, ils allaient dans le monde de Narnia, un monde imaginaire fantastique. Là, à mon avis, l'autre monde où ils vont aller, ça doit être dans une autre planète, quelque chose comme ça.
Non, sans blague.
Ah ouais.
Alors ça, bon, c'est du Doctor Who, hein, c'est pas trop difficile à deviner.
On va apprendre que c'est la planète Scarrow qui a été gelée.
Bien sûr.
Voilà. C'est la planète des Wood.
Enfin, bref. Petite dernière news avant d'attaquer le vif du sujet, puisque de toute façon il n'y a rien d'autre.
Shada. Il y a les coffrets DVD qui sont passés à 19,99€ à la Fnac période de Noël. Ouais.
Profitez-en, achetez-les à ce moment-là, ou alors achetez les d'occasion sur eBay. S'ils en vendent déjà.
Oui, parce qu'il faut profiter si vous vouliez les acheter. Ça repasse à 33€ là.
Ça encore fait
profiter.
Ouais. Ça fait quand même cher pour ce que c'est, sincèrement. Si encore il y avait vraiment beaucoup de bonus, que le packaging était très soigné, 33€ à la rigueur, oui, mais c'est pas le cas, donc faut pas exagérer. Petite dernière news, donc je disais.
J'en ai une petite après moi.
Oui, bon, on dira. Shada, la fameuse histoire de Douglas Adams dont l'histoire n'est pas terminée, puisque c'est une histoire qui n'a pas été. Qui a subi un problème pendant le tournage.
Oui, il n'y avait pas une grève des scénaristes.
Si c'est... Non, pas une grève des scénaristes, mais une grève dans les studios. On n'est pas aux États-Unis.
Les États-Unis, c'est récent, ça.
Il y a une grève, pendant le studio. Je ne sais plus, je crois que c'était pour l'électricité, un truc dans ce genre-là. Et s'il n'y a pas d'électricité, tu peux pas tourner. Hein.
Ah bon?
Ah non. Enfin bref, l'histoire n'a pas été tournée en entier, il n'y a que les extérieurs qui ont été tournés, une partie des intérieurs. Michel, éloigne ton micro. Cette histoire faisait partie des trois à n'être jamais sortis en roman, en version roman.
Ouais, c'est ce que tu avais dit. Ouais.
Parce que Douglas Adams voulait les écrire lui-même.
Ok.
Il gardait les droits parce que le scénario c'était lui, donc il gardait. Et là, comme il est décédé en 2001, il les a toujours pas écrits. Et heureusement, là, il n'y a pas longtemps, c'est Gareth Roberts qui a écrit la version roman de Shada pour la BBC, et le roman sortira le 15 mars 2012.
Ok, bonne nouvelle.
En grand format en plus, hein, c'est pas un poche.
Comme pour The Coming of the Terraphile.
Oui.
Le même format que la grande version. Ok.
Je pense qu'il y aura une couverture solide en plus. Donc... Bref, okay. Très intéressant. Et moi, toi?
Alors moi, c'est vraiment une mini news. Je vais essayer d'en faire une s'il y a des choses intéressantes chaque semaine. On va appeler ça la Minecraft News. Vu que je suis devenu, à cause de Jonathan, est-il utile de le rappeler, un accro à Minecraft et que je suis sur le serveur de Doctor Who. Alors pour l'instant, le principal est fermé. Mais samedi dernier, et tu en faisais partie, alors que même pas moi, c'était la chasse à l'Ender Dragon. Je le dis très mal, dis-le s'il te plaît.
La chasse à l'Ender Dragon.
Voilà, et ils ont ramené son œuf qui est en exposition dans la maison principale de la map qu'on utilise pour l'instant. Avec un magnifique Hello Sweetie gravé dans une montagne.
Oui, oui.
Fait par un génie d'intelligence.
Bah oui, oui, tout à fait.
Moi. Ah. Et. on a quand même refait quelques petits trucs, Doctor Who, un peu moins, mais. Bon, en tout cas, en attendant le retour du serveur. Et c'est l'Holocrip qui apparemment a eu le privilège de donner le dernier coup d'épée.
Et voilà, oui.
Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, ils ont terminé Minecraft.
Ouais.
Voilà, c'est beau, et bravo à l'Holocrip et bravo à tous ceux qui étaient là.
Oui, même si merci, moi, je n'y étais pas. Merci, c'est très gentil de ta part. De
et d'ailleurs, je tiens à rappeler que l'Holocrip veut me faire visiter la boîte de nuit. Hein,
oui, dès que le serveur sera disponible.
Voilà, elle comprendra encore.
T'es sûr que c'est vœux? Je pense que c'est doigt ou... Non, ouais. Pas, tu la forces pas un peu, non?
Non, 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 non.
Non, 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 non.
Non, non, non,
non. Non.
On n'est pas non, comme
non.
ça.
Bah non, tu n'es pas comme ça. Non, non, pas du tout. Je pense qu'on a tout dit, puisqu'il n'y a pas grand chose. Passons maintenant au
vif. C'est pas mal quand même, je trouve.
Ouais, mais passons maintenant au vif du sujet. Alors, qu'est-ce que ce sera? Le double épisode avec les Sleevin, donc, qui est écrit par je ne sais plus qui.
Russell T. Davis, alors, ce double épisode, l'humanité en péril et la suite de la Troisième Guerre mondiale, voilà. C'est écrit par Russell T. Davis, je l'ai déjà dit. Donc, c'est un double épisode en deux
épisodes.
Et, ouais, c'est toujours avec le 9e Docteur et Rose Tyler, voilà. Et donc le docteur et Rose, après avoir voyagé dans le futur et dans le passé, ils disent on va revenir dans le présent. Et donc là, comme bien sûr le docteur lui avait promis de la ramener chez elle, il la ramène chez elle, mais sauf il a fait une petite boulette au lieu de l'avoir ramenée genre 6 heures après.
Non, c'était 12.
12 heures, oui, il l'a amené 12 mois après, c'est-à-dire un an après. Et là, Rose va remarquer qu'elle avait disparu aux yeux de tout le monde. Voilà. Donc, ils n'ont pas le temps de dire ouf qu'un ovni s'écrase en plein milieu de Londres. Voilà.
Coïncidence.
Donc, tout le monde est stupéfait. Ouais, des extraterrestres à Londres. Ouais, génial. Et sauf le docteur qui va dire ça cache en fait quelque chose.
Bah ouais, c'est un peu trop gros quoi.
Ouais,
un truc qui s'écrase comme de par hasard. Ouais,
en fait, c'est une supercherie qui cache en fait une véritable invasion extraterrestre, mais au sein même du gouvernement anglais. Voilà.
Et je vais vous dire quelque chose que vous n'avez sans doute pas remarqué. Le vaisseau est fait en image de synthèse.
Non, sans blague.
Ouais.
Sauf quand il percute Bill Ben.
C'est le premier épisode où apparaît les fameux.
C'est Vin.
Qui viennent de la planète.
Rax Corrigo, Falapatorius.
Maintenant, vous allez le répéter en claquant des mains et en sautillant. Bravo, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode?
Réellement, ça fait pas partie de mes préférés. Parce que bon, je suis pas un grand fan des Slivin.
Je crois, Jonathan, c'est le premier épisode que tu as découvert la série, non?
Eh oui, oui, exactement. C'est avec World War 3 que j'ai commencé. Donc,
Ouais, et la première fois que tu l'avais vu, tu te rappelles à peu près c'était quoi ta réaction?
Mon dieu, que c'est mal fait.
Ouais, c'est vrai.
Non, je trouvais les Slivin affreusement ridicules. Au contraire, le docteur, j'avoue que j'ai trouvé un peu génial la façon, notamment quand il, dans le second épisode où il est entouré par des gardes et puis il dit s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est arrêter quelqu'un devant la porte de l'ascenseur et que la porte de l'ascenseur s'ouvre, ouais. Qu'il s'engouffre et qu'il hop, il part. Non, ça j'avais trouvé ça pas mal, mais cela dit, j'avais trouvé les Slivin affreusement ridicules. Ouais. L'histoire, bon, j'avais pas franchement suivi parce qu'en plus j'étais arrivé vers la fin de l'épisode.
Je les trouve toujours ridicules, hein, moi d'ailleurs.
Ils le sont toujours, c'est pour ça qu'ils réapparaissent pas, quasiment pas dans la nouvelle série.
Ah, au final, quand tu sais pas où les mettre, tu les mets dans The Sarah Jane Adventures.
Voilà,
au final,
c'est pour ça qu'ils ont
au final. Mais combien de fois ils sont apparus d'ailleurs dans The Sarah Jane Adventures?
Au moins dans 4 histoires.
Ouais, parce que quand ils savent pas quoi faire comme histoire, tiens, on va te mettre les Slivin.
Au moins dans 4 histoires, je.
Et à la fin, en gros, ils cherchent du vinaigre, et à la fin, boum, ils explosent.
Mais ça se voit vraiment que c'était fait. C'est des monstres faits pour calibrer un jeune public, quoi.
Ouais.
C'est là qu'on voit que Russell T. Davis, c'est un bon scénariste, mais pas autant que ça, quoi. Je veux dire, bon. Ouais. Le double épisode n'est pas mauvais, loin de là.
Ça faisait vraiment très très. Alors là, ça faisait très très, même trop familial. Après.
Ce que j'aime pas,
À part les Slitin, leur apparence qui a fait too much. Ça faisait des gros bébés tout verts. C'est vrai que ça faisait ridicule. Moi, j'avais trouvé l'histoire vachement pas mal. Surtout la partie où je trouvais que c'était bien inventé. C'était en Wico où se retrouve un moment, t'as Rose le docteur et la ministre, je sais plus comment elle s'appelait,
Harriet Jones.
Qui se retrouve coincé dans le bureau.
Et là,
ils sont retrouvés. Donc, t'as la moitié de l'épisode qui se retrouve coincé dans le bureau et ils viennent en aide à Mickey et à Jackie à un terme par ça.
Ouais.
Donc, je trouvais que c'était bien amené. De dire on n'a pas trop de décors, comment on va faire pour prendre partie de ça, quoi.
Non, c'est pas une question de décor, c'est juste que bon, non mais l'épisode est pas mauvais, moi je trouve pas mauvais, c'est juste que pour moi c'est pas du vrai Doctor Who, ça fait un peu trop gamin, je dirais, ça fait un peu trop.
Moi je trouve ça me faisait penser au genre de série à deux balles qu'on peut trouver des fois sur certaines chaînes de la TNT. Je pense que si quelqu'un regarde Doctor Who pour la première fois et tombe sur cet épisode, ça va vraiment le faire détester de la série. Parce que déjà. Quoi ?
C'est comme ça que j'ai commencé.
Ouais, mais toi t'es pas normal, mais.
Oui, c'est pour ça.
Mais en plus c'est le docteur, donc voilà, comme tu le dis, vu que tu es un peu schizo sur les bords.
Non mais le seul défaut.
L'histoire
est bien, mais le seul défaut c'est peut-être l'apparence des Slitin qui sont ridicules, mais à part ça.
C'est les effets spéciaux, bon.
Ce que c'est ça la série classique, c'était mal fait, mais. Pourquoi ils sont pas dit dans la nouvelle série, on va prendre des trucs mal faits et on va les mettre. Je sais pas, moi j'aurais préféré voir une maquette moche que de voir le truc en 3D moche.
Non, c'est pas ça, c'est que c'est une question de moyens techniques, ça permet de faire des trucs.
Franchement, j'aurais trouvé ça stylé. Une maquette, regarde, la Star Wars, imagine, tu vois.
Les maquettes de Star Wars sont pas à mon avis,
ils n'auront pas eu le droit de faire défoncer la moitié de Big Ben avec.
Non, mais par contre, Big Ben qui explose, c'est une maquette.
Ouais.
Qui a l'envers en plus. non mais c'est Slivin qui leur concept, moi je trouve franchement ridicule, leur échange de gaz qui se transforme en paix.
Ouais.
Les Anglais ils raffolent des paix, ils trouvent ça hyper drôle. J'avoue que ça nous échappe complètement. Hein. Bon.
Alors, si moi ça me fait marrer.
Ouais mais bon.
Je vois pas l'intérêt dans Doctor Who quoi, à part dans la parodie, mais.
Je suis tombé
par contre, dans la parodie, ça a été très bien utilisé. Hein.
Ouais, c'est pour ça, ça fait un peu parodique. Ça, en fait, t'as pas l'impression de voir vraiment un épisode écrit par pour une série anglaise. T'as presque l'impression de voir une série pas américaine, mais disons effectivement, comme tu disais, un truc qui passerait sur NT1 avec des mauvais effets spéciaux. Ouais. Enfin, disons des images de synthèse un peu trop voyantes, des monstres un peu ridicules et une histoire qui se limite. Écrit sur un ticket de métro.
Finalement, l'intérêt c'est Arya Jones, quoi. Le seul intérêt de l'épisode non, est non, encore.
Non, le vrai intérêt de cet épisode-là, c'est ce qu'on voit au début, c'est justement que pour une fois, on voit les répercussions des agissements du docteur et le fait qu'il emmène parfois des compagnons dans son TARDIS sans qu'ils préviennent leur famille ou quoi que ce soit.
Ouais.
Et on voit justement la mère de Rose qui pendant un an ne sait pas ce qui est devenu sa fille, qui a cru qu'elle avait été enlevée ou tuée par son ami Mickey, tous ces trucs-là.
Ouais, il était accusé.
C'est tout, la première fois que qu'on voyait dans la série vraiment le côté famille des compagnons, parce que jusqu'à présent, on ne l'avait jamais vu.
Oui, c'est vrai.
Dans la série classique, on avait vu juste la tante de Tegan. C'est tout, quoi. On n'avait pas vu. C'était généralement pour des compagnons extraterrestres où on voyait un peu la famille, ils avaient une culture différente, mais jamais pour des terriens. Jamais. Ouais. Là, on a vu les répercussions des actes du docteur quand il emmène quelqu'un dans son TARDIS et qu'il se trompe et qu'il n'emmène pas au bon endroit.
Ouais, de toute façon, Tegan, il n'était pas humain, ce mémoire est bonne.
Tegan, c'est une femme.
Ah merde. Ah, je comprends avec le gamin, moi.
Non, ça c'est pas Tegan.
J'ai du mal avec les noms des.
C'est Aldrich.
Aldrich, voilà.
Ah, oui, Aldrich.
Mais ils ont tous des noms.
Non, anglais. Mais ce que je veux dire, c'est que, à la rigueur, c'est la seule. Enfin, pas la seule, mais disons, c'est l'un des plus gros apports de la série de Russell T. Davis.
D'avoir fait un peu la famille. Comme
voilà, d'avoir agrandi le cercle des compagnons, d'avoir donné une plus grosse importance aux compagnons et aussi à leur entourage, une plus grosse part de leur vie. Et franchement, moi, je dis, c'est bien, parce qu'ils en ont pas abusé au cours de la série, comme pour une série américaine, mais en même temps, c'est pas bien parce que je m'en fous.
Ouais.
Je veux dire, c'est pas ça qui m'intéresse dans Doctor Who, je m'en fous. C'est bien, c'est marrant de voir les prospectus quand le docteur voit les prospectus de Rose et qu'il court à toute vitesse dans l'appartement pour dire à Rose: désolé, je me suis trompé, c'est pas 12 mois, c'est pas 12 heures, c'est 12 mois, où il fait comme ça, comme si c'est, comme si tu disais c'était quelque chose de normal, mais sincèrement, je m'en fous de savoir comment la mère de Rose a pris la chose. Ça apporte peut-être un côté plus humain aux compagnons, enfin, ça permet de s'identifier un peu plus. Mais dans la série classique, ils arrivaient très bien à le faire sans, donc je me dis que...
Non, mais c'est aussi avec ce double épisode qu'on apprend que le docteur et Tiaki se sentent super très bien aussi.
Ouais.
Après, de toute façon, c'est normal, il faut bien qu'il... c'est une mère, elle protège sa fille.
Bah oui, t'as un type bizarre qui vient à bord d'une cabine.
C'est surtout que le docteur, c'est un type où on fait confiance alors qu'on le connaît pas.
Bah ouais.
Ouais, mais il a un côté cool. D'ailleurs, c'est réutilisé dans l'épisode, pas de The Lodger, mais celui où il y a le retour justement du personnage de The Lodger, où justement on voit que personnage... Que tout le monde l'aime bien dès le début, quand il est au magasin et tout, là, et qu'il travaille.
Oui, non, mais après, ça, c'est le docteur, il arrive à faire. Mais ça aussi, c'est. Disons que le docteur, c'est dans toute la série classique, c'était le. Enfin, même si ça se voit un peu moins avec David Tennant ou Matt Smith, c'était quelqu'un quand il entrait dans une pièce où il ne connaissait personne et que tout le monde était en train d'un peu s'engueuler. Il suffisait qu'il élève un peu la voix et tout d'un coup tout le monde se mettait à l'écouter parce qu'il avait un charisme énorme. Mais on voit que maintenant ce n'est plus
vraiment. C'est un Time Lord, le gars.
Oui, non, mais je veux dire, même quand tu le connais pas, je veux dire, quand toi t'en es pas encore à John Pertwee, mais par exemple.
J'en suis même pas à Trotton, alors.
Oui, déjà. Je veux dire, c'est. Le cas le plus flagrant, c'est justement quand il est sur. J'ai un trou de mémoire. Enfin bref, il arrive accidentellement sur une planète où il y a une délégation de plusieurs planètes pour discuter d'ajouter cette planète justement dans un conseil, tout ça. Et tout d'un coup, le fait de sa présence va calmer un peu tout le monde, quoi. Je veux dire, il va s'imposer. Pourtant, il n'est pas censé être là, quoi. Mais il va pas forcément élever la voix, il va pas se mettre à crier, tout ça. Mais il va avoir un ton tellement charismatique qu'il s'impose de lui-même et il devient le leader. Christopher Eccleston, c'était encore le cas. Pour David Tennant, c'est déjà moins le cas, notamment avec l'épisode qui se passe sur Midnight.
Ouais.
Et où justement.
À un moment, il crie, il dit silence.
Ouais, mais ça marche pas du tout parce que pendant tout l'épisode, tout le monde va se battre.
Eh, mais vous avez quoi contre. Mais qu'est-ce que les gens ont tous contre cet épisode ?
Non, mais moi j'aime bien cet épisode. Mais je veux dire, c'est que c'est un épisode où le personnage du docteur a changé justement parce que il n'arrive plus à imposer. Il a plus le même charisme. C'est la faute des scénaristes, hein. C'est pas comme si c'était un univers réel. Mais je veux dire, dans cet épisode-là, on voit justement que plus personne ne l'écoute.
Ouais.
Ce qu'il dit, c'est vrai, tu vois, il est pas. On n'arrive plus à lui faire confiance. Bon, c'est de la faute des scénaristes, c'est de la faute de Russell T. Davis, c'est lui qui a écrit cet épisode-là. C'est sympa d'avoir un épisode comme ça. Mais ça fait perdre aussi du prestige au personnage du docteur. Et c'est encore le cas avec Matt Smith qui a du mal à s'imposer auprès de personnes qui ne le connaissent pas dans les épisodes. Et à part dans Closing Time.
Mais ça, c'est un autre épisode, mais là, voilà quoi.
Oui, non, mais là, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné du sujet, mais avec. C'était ça l'intérêt, moi, sincèrement, les compagnons, savoir ce que pense la mère du docteur, je m'en fous.
Ouais.
Mais bon, c'est un double épisode sympa. Pour moi, c'est pas vraiment du Docteur Who, donc je vous déconseille de commencer avec ça.
Ah oui, mais totalement. Hein. Avec le début, quoi.
Ouais, oui, déjà.
En plus, c'est un double épisode. Le mieux, c'est de. Si vous pensez les regarder, regardez les deux à la suite, quoi.
Oui, n'attendez pas.
Bah oui.
Non, puis je sais pas, je trouve que le niveau de ce double épisode baisse. Mais je veux pas dire, mais on a presque l'impression de voir du Sarah Jane, quoi. Quand on y regarde avec les séries.
Ah non, mais c'est du Sarah Jane. Bon, après, les gens vont dire, oh, mais c'est bien Sarah Jane, oui, mais c'est pas ciblé, c'est pas le même public.
Bah, c'est pas le même public, voilà, c'est ça.
Là, c'est vraiment pour toute la famille, Doctor Who, tout en ayant un côté,
familial.
Ouais, familial, mais là, c'est pas. Alors que là, c'est vraiment basé vraiment pour les gamins, quoi. Pour ceux qui vont acheter les goodies qui coûtent 15€, 15, je sais pas combien de livres là-bas en Angleterre. Genre,
15 livres.
Ouais, voilà, enfin les trucs en gros, ça veut dire acheter nos produits, quoi. Je suis sûr, ils ont créé ce double épisode juste pour les personnages et pour les.
Non, bandes. Faut pas exagérer.
Mais
je trouve bizarre l'idée des sleeve-in, c'est surtout ça. Moi, je sais pas, c'est pas un concept qui me conquit en fait. L'idée de la peau qui change.
C'était le concept de faire un épisode très familial avec des. Il y a des monstres, mais il faut pas qu'ils fassent peur, qu'ils fassent un peu rire les enfants.
Ouais, mais c'est Doctor Who, les Daleks qui font peur aux gamins et pourtant ils regardent.
Ouais. Les Daleks font peur.
Oui, pour les jeunes, oui.
Faire genre des monstres qui ne fassent pas peur aux enfants, qui fassent plus rire ou je sais pas quoi.
Ouais, mais c'est idiot parce que bon, c'est du Doctor Who, c'est pas fait que pour un public de jeunes.
L'expression behind the sofa, elle a pas été créée pour rien.
Oui, c'est vrai, il y a cette scène où t'as Harriet Jones et Rose Tyler qui se font pourchasser par les Slytherin et qui se cachent. Il y a une qui se cache en dessous du bureau, l'autre qui se cache derrière le rideau. Vous voyez cette scène un peu.
Il y en a une toute ridée, toute décatie, je crois qu'il y a un truc dans ce genre-là, et l'autre toute jeune. Ouais. Je vous sens. Moi, ce qui m'a toujours choqué, je vais parler des effets spéciaux, mais. C'est que on se demande parfois pourquoi l'image de synthèse ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas à nos yeux, tu sais, pourquoi on reconnaît tout de suite même si c'est pas forcément mal fait
la surbrillance
Dans l'épisode c'est le cas puisque de toute façon c'est qu'une question de moyens et de temps pour avoir de bons effets spéciaux, mais je veux dire c'est que quand on regarde par exemple les Slytherin tout au long de l'épisode quand ils sont en costume.
Ouais.
Ça fait quelque chose de lent, même si t'as les yeux qui clignent, qui sont rajoutés après en post-production, c'est quelque chose d'assez statique, on connaît bien que c'est des gars en costume. Et puis tout d'un coup, t'as une séquence en plein milieu du deuxième épisode où là, ils se mettent à courir, à défoncer des portes, à poursuivre Ariel Jones et Rose. Et là, Tu te dis, mais, ouais. Non, mais vous essayez de nous faire quoi? Avaler une loutre? C'est, je veux dire, c'est, ça marche pas, quoi. Ils auraient pas dû faire ça, parce que c'est clair qu'on n'y croit pas. On voit tout de suite que qu'un personnage en costume n'a pas la même dextérité qu'un truc en image de synthèse, surtout qu'il se met à courir comme si c'était un orang-outan ou un truc comme ça. Il y a une trop grande différence. C'est un peu comme la différence est aussi flagrant qu'entre l'épisode 3 et 4 de Star Wars, quoi.
Ouais. Oh, oui. Bah oui, il n'y avait pas les mêmes moyens aussi. Hein.
Oui, non, mais c'est même pas une question de moyens, je veux dire, c'est que.
Non, mais je te parle de Star Wars. Là, il y avait une question.
Oui, non,
de
mais pour Star Wars, oui, c'était surtout
c'est
pas
l'épisode 3 qui a payé l'épisode 4.
Hein. Non, mais c'est. C'est
bon, c'est un autre sujet. Hein.
Oui. Bah, moi, je voulais passer. En fait, il y a eu un petit anecdote. Je suis tombé dessus. En fait, il y a eu quelques scènes de réécriture du scénario par Russell T. Davis. Apparemment, il y avait une scène où tu voyais Tony Blair se faire tuer. Ils avaient même trouvé un sosie. Et que ça n'a pas été fait parce qu'ils avaient peur que ça puisse blesser l'intéressé, quoi.
Ah, ok.
Parce qu'ils avaient peur que ça puisse blesser.
Bon, enfin, on voit quand même sa peau. Ouais. Non, je sais plus, on voit juste le dedans, on devine bien qui c'est de toute façon.
Ah oui, il y a aussi un autre personnage de Torchwood qui apparaît pour la première fois, le docteur Toshiko Sato.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai.
C'est dans Torchwood qu'on apprend qu'en fait ça devait être Owen qui devait y aller. Ouais. Mais alors, ce qui est plutôt marrant, c'est que là encore, ça paraît bizarre, mais Toshiko, elle fait une espèce d'autopsie de l'alien. Alors que dans Torchwood, elle fera plus jamais ça.
Ouais.
C'est Owen qui fera ça, quoi. Je veux dire, c'est le même personnage, mais on n'a pas l'impression parce que son nom n'est pas mentionné d'ailleurs dans le double épisode.
Ouais. Mais à mon avis, c'est histoire pour expliquer pourquoi on voit la même actrice.
Ouais, ça, c'est les fans encore qui ont dû poser trop de questions. Alors les scénaristes, ils ont dû trouver quelque chose, quoi, pour expliquer. Enfin.
On aime beaucoup chercher la petite bête, hein.
Bah ouais. Ah, les fans, oui, mais c'est de la science-fiction, c'est normal. Hein. C'est pas fait non plus pour éteindre son cerveau. Pour ça, vous regardez un soap.
Bah ouais.
J'espère qu'il y en a qui regardent et qui écoutent pas. vous le conseillez ou pas?
Non.
Moi, je vais dire, si vous pensez regarder seulement ces deux épisodes, non. Si vous avez tendance à regarder, si vous voulez passer. Si vous regardez toute la saison 1, vous êtes obligé de passer parce que ça a son utilité dans l'arc narratif, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques petits éléments qui sont mentionnés dans cet épisode-là, et même à la fin de la saison.
Ouais.
Avec le retour de.
Boomtone.
Voilà, dans Cardiff. Effectivement, c'est le même personnage qui revient, c'est les mêmes extraterrestres. Et après, on ne les reverra plus dans Torchwood. Dans Doctor Who.
Ouais.
Ouais. Bon, bah voilà. on a bientôt fini ce guide test. Puisqu'on va passer à ma critique de l'épisode The Dalek Invasion of Earth.
Ouais.
C'est bien, hein.
Attention, bruit de merde. Voilà. je sais pas si on entend bien, mais...
On refait un coup.
Mais ça... Ouais, bon, allez, ok. Voilà.
Ouais, on l'entend mieux, comme ça. Bon, vous l'aurez deviné, c'est un épisode avec des Daleks.
Ouais.
Je vais pas le faire à chaque fois, je dis Dalek, hein, parce que
exact.
Sinon,
si si.
Alors, deuxième histoire en 6 épisodes de la saison 2, donc c'est un classique, donc 1964 encore.
Ouais.
Qui existe complètement, hein, qui est sorti en DVD, parfaitement restauré. Je ferai un petit passage sur le DVD à la fin. Sincèrement, c'est la deuxième fois que l'on rencontre des Daleks dans la série, ce qui est pas rien. Il y en a que ça va énerver, hein. C'est la deuxième fois qu'on rencontre les têtes de les boîtes de conserve.
Et... ça va énerver les gens, ça.
Oh, si, c'est pareil. C'est un épisode un peu pivot, je dirais. Parce que ça marque un peu le début du changement dans la série, du changement du concept. Ouais. Déjà, à la fin de l'histoire, Suzanne nous quitte. Reste sur Terre. Le docteur l'abandonne, puisque de toute façon, il faut qu'elle vive sa vie un peu. D'ailleurs, c'est une séquence très très connue de le fameux dialogue du docteur, du premier docteur, qui dit un jour je reviendrai peut-être, et jusqu'à présent j'espère que je ne regretterai pas tout ça. Parce que cette séquence là est diffusée au début de The Five Doctors, par exemple. Et c'est une séquence très connue qui est souvent reprise pour illustrer le premier docteur.
Ouais.
Et c'est aussi un épisode pivot pour les Daleks, parce que ce n'est que la...
Oh.
J'aurais pas dû le dire. parce que c'est pour l'instant, le docteur les re-rencontre, puisqu'il arrive sur Terre en l'an 2000 et quelques. La Terre est complètement envahie par les Daleks. Il y a certains humains qui sont transformés en espèces de robots contrôlés par les Daleks pour, comme esclaves. Et les Daleks veulent détruire la Terre, en fait, il me semble. Ils creusent un tunnel, un puits jusqu'au centre de la Terre pour y placer une bombe. Et pour l'instant, les Daleks ne connaissent pas encore réellement le Docteur.
Ah.
Parce que dans la première histoire de Daleks, The Dalek, c'était des versions obsolètes qui étaient coincées encore sur Scarrow et que le Docteur a complètement tué. Il a tous tué, en fait, et puis les Tals ont fini le boulot. Et là, c'est d'autres versions de Dalek, plus évoluées et qui étaient déjà parties depuis longtemps de Scarrow, qui sont légèrement différents et qui peuvent aussi rouler dans la ville, puisqu'ils sont pas obligés d'être sur une surface alimentée en électricité pour pouvoir vivre. Et pour l'instant, quand les Daleks affrontent le Docteur, ils ne le reconnaissent pas encore en tant qu'ennemi. Ils se demandent encore qui il est.
Ouais.
Donc, ce qui donne un avantage certain au Docteur. Je ne cache pas que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je me rappelle pas d'exactement tous les détails.
Mmh.
Mais comme à l'accoutumée, de toute façon, tous les compagnons se retrouvent séparés au début de l'épisode et ils se retrouvent vers le milieu et puis aussi surtout vers la fin. C'est comme ça à peu près dans chaque épisode, parce que ça permet, comme c'est sur plusieurs épisodes, ça permet d'avoir plusieurs histoires. Enfin, c'est sympa. Et j'avoue que c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est un épisode qui a... Au niveau effets spéciaux, qui a bien sûr vieilli, mais pas tant que ça. Ça passe encore, je veux dire, comparé à la version film. Et, bah oui, j'en parlerai quand même. Et c'est un épisode agréable, parce qu'on voit le docteur encore battre les Daleks avant que ça devienne une rengaine, tu sais, qu'ils disent « C'est le docteur, il faut qu'on le tue. » Si ils ne reconnaissent pas encore, ça fait un peu comme si c'était un extraterrestre qui revenait... comme ça, mais qui n'en reviendrait jamais, quoi. Enfin, même s'il était, les Daleks étaient déjà très populaires à cette époque-là.
Ouais.
Il est sorti en DVD. Alors, pour l'édition DVD, il n'y en a qu'une pour l'instant, et juste en m'étonnant qu'il la réédite. Enfin, de toute façon, il est toujours édité en DVD, il est toujours disponible, mais je veux dire, ils n'en font pas une nouvelle version comme ils ont fait pour certaines histoires.
Ouais. Ils refont les effets spéciaux.
Ben justement, celle-là, ça fait partie de ces DVD-là où ils ont rajouté certaines séquences. Ils ont remplacé, disons, les séquences avec les soucoupes des Daleks par des versions en images de synthèse, même de nouvelles, qu'ils ont intégré à l'épisode. Et t'as la possibilité de voir les 6 épisodes avec ou sans.
Ça c'est quelque chose de bien, parce que si on est obligé de...
les puristes, eux, ça dépend. Moi, je sais que j'ai été regardé avec, parce que je me demandais ce que ça donnait un peu, et puis, ça rend bien, tu vois que c'est de l'image de synthèse quand tu vois les scènes, mais bon, ça rend bien, ça dénature pas l'épisode plus que ça, quoi. Ils se sont pas amusés à changer des petits détails tout au long de l'épisode, c'est juste... des séquences pour améliorer les effets spéciaux un peu forts de l'époque. Et puis ouais. Ça contente aussi les puristes parce que ils peuvent voir l'épisode tel qu'ils l'ont vu à l'époque s'ils étaient nés, ou tel qu'ils aiment voir les épisodes de Doctor Who. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Doctor Who Restoration Team restaure les épisodes tels qu'ils ont été diffusés et ne cherche pas à les modifier pour contenter le public actuel.
Ouais.
C'est ça la ligne directive de cette équipe de restauration. C'est vraiment de retranscrire les épisodes tels qu'ils étaient diffusés à l'époque. C'est appréciable, quoi. Ça nous évite des trucs comme pour Star Wars avec des rajouts qui ne veulent plus rien dire, quoi.
T'es obligé d'en venir à Star Wars, toi, hein.
Bah oui, parce que c'est le seul exemple que j'ai pour des restaurations qui ne servent à rien.
D'ailleurs, j'ai vu, il y a des romans Star Wars.
Et qui même modifie quelque peu l'histoire, même parfois.
Oui,
il modifie des scènes.
Oui, c'est pour ça. C'est ça qui est agréable. Et cette histoire en fait partie. Et ça ne dénature pas du tout l'épisode. Puis, je dis, si ça vous dit pas, regardez quand même. Parce que je crois que vous avez la possibilité de regarder que les séquences rajoutées. Ça aussi, c'est agréable dans les bonus. Regardez par curiosité. Peut-être pas les épisodes, juste ces séquences-là. Et puis si vous voulez être le puriste, voir les épisodes tels qu'ils ont été diffusés à l'époque, vous avez la possibilité. C'est ça qui est appréciable. Alors avant d'arrêter là-dessus, je vais quand même parler du film. Puisque le premier film... Il est pire, je sais.
Ouais.
Le premier film donc qui a été adapté de The Dalek en 1965... et à une suite qui s'appelle Dalek Invasion Earth 2150 AD, j'ai dit 2150 en français parce que c'est mieux, qui fait suite au film qui est sorti en 66.
Ouais.
Et on retrouve Peter Cushing dans le rôle titre du docteur. Grosso modo, le film il suit exactement la même histoire que l'histoire, que le même scénario, mais bizarrement, le film a encore plus vieilli que l'histoire.
Ah ouais, non, c'est ignoble.
C'est
cliché, mais oui,
c'est sûr que maintenant il est extrêmement mal vieilli. Moi je sais qu'il me fait plutôt marrer que plutôt que.
Mais totalement. Cliché. Non, mais quand le Tardy disparaît, que l'autre il tombe sur les fesses et que genre il fait
ah, dommage.
C'est sûr, il en fait 10 000 tonnes, quoi. C'est surjoué. Un regard caméra, mais. Pas quoi,
mais non, mais j'allais surtout mentionner ce film parce que il y a Bernard Gribbins,
révélateur.
Oui, non, mais il y a Bernard Gribbins quand même dans ce film. Bah, c'est le grand-père de Donna.
Ah, oui, c'est vrai,
oui, mais c'est parce qu'on t'a pas entendu, t'as un problème de micro.
Ah bon,
oui, c'est pour ça qu'on t'entend pratiquement pas.
Okay. Reviens vers nous.
Je suis de retour.
Voilà.
Prends le TARDIS.
Non, c'est quand même pareil.
Attends, chute.
Non, je suis très bien. Voilà, c'était très utile. En fait, on va utiliser tous les trucs qu'on trouve autour de nous pour faire des bruitages parce qu'on n'a pas de moyen de les faire.
Non, j'ai appuyé sur la.
En post-prod.
J'ai retiré le frein à main dans le.
Ok.
Ah, c'est pour ça. Non, mais c'est assez marrant de se dire quand même que cet acteur-là il joue dans ce film. Qui aura moins de succès d'ailleurs que le premier, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de suite. Et je pense qu'il n'aurait jamais imaginé que des années plus tard, il jouerait dans la série qui a inspiré le film. Mmh. Et en plus, retrouver un rôle important, parce qu'il est quand même là, présent, pour le dernier épisode du 10e Docteur.
Ouais.
C'est quand même balèze. Hein.
Ouais.
Il aura...
Oula. Vous
voulez dire quoi?
Non, j'allais rien dire.
Ah bon. Donc c'est pour ça, le film, après, il y a des séquences qui me font toujours marrer. Par exemple, quand c'est au début du film, quand ils ont assommé un garde et qu'ils sont en train d'examiner ce qu'il avait sur les oreilles.
Attendez.
Ah oui,
les costumes d'une des gardes. Je sais pas si vous avez regardé La folle histoire de l'espace ou Spaceball, mais ils ont piqué les costumes, quoi. Je suis sûr, Spaceball... Mel Brooks il a repris les costumes, quoi. C'est exactement
c'est
ça.
C'est peut-être une référence, on ne sait pas. Hein.
des casques en testicules, enfin c'est non mais c'est immonde. En cuir, on dirait des trucs trouvés dans des trucs SM quoi. Enfin, c'est... Avouez-le ça. Non mais.
Non mais arrêter. C'est vrai que bon c'est du mauvais goût, mais c'est un film des années 60 aussi en couleur.
Ouais, ouais mais là.
mais non mais ce que j'allais surtout dire c'est que.
C'était une vision du futur dans les années 60, faut te dire.
Voilà.
Ouais. Mais surtout que dans le futur, ce sera comme ça.
On aurait des casques en forme de boule avec des costumes en cuir.
Oui. Justement, cette séquence qui me fait toujours marrer, c'est quand ils examinent le casque du gars et qu'ils sont en train d'ouvrir et qu'ils disent ah ça c'est une radio hyper perfectionnée et t'as quoi, t'as deux câbles, un petit truc quoi. Maintenant ça fait complètement désuet quoi. Même à l'époque, je suis sûr que ça faisait désuet quoi parce que le truc est totalement ridicule quoi. C'est... T'as pas l'impression qu'ils T'as l'impression qu'ils ont fait un peu un truc fauché et pourtant c'était un truc qui avait quand même des moyens quoi.
Ouais, il y avait des moyens et pourtant la scène de fin où le vaisseau s'écrase, ça c'est culte. Ça c'est beau ça.
Alors le film est disponible dans un coffret réuni avec le premier qui est sorti en Angleterre. Ils existent en français les deux films mais ils sont pas sortis en DVD en France.
Ouais.
C'est dommage. C'est Canal Plus qui a les droits.
Ah bon?
Ouais. C'est Studio Canal qui a les droits. Donc peut-être qu'un jour, ou alors ils n'ont pas jugé que ça se vendrait suffisamment bien en France pour. Parce que ça a été diffusé sur Sci-Fi ou un truc dans ce genre-là.
Ok.
Ou Cinefx, je crois. Bref, sincèrement, si vous voulez, par curiosité, si vous voulez vous marrer un bon coup, regardez le film.
Ouais.
Mais sinon,
je vous
conseille plus l'histoire qui a plus d'intérêt, franchement.
Ah non, le film est très très marrant. On rigole du début à la fin quoi, c'est un nanar hein, on peut le
oui,
dire.
Oui c'en est.
C'est un nanar quoi.
C'est dommage parce qu'il y a Peter Cushing, mais ce qui est marrant c'est que Peter Cushing
Mais j'aime pas Peter Cushing moi.
Dans ce rôle là.
Ouais, je sais pas. C'est pas l'image du docteur que j'aime moi.
Non, ça fait grand-père gâteux. C'est
un
bizarre
petit
de le voir
ouais,
dans ce rôle,
voilà,
ça,
c'est ça.
Alors pour une petite anecdote. Il a accepté de tourner dans ce film que seulement si l'actrice Roberta Tovey, je crois, qui jouait Suzanne, sa petite fille, revenait dans le film.
Ok. Pourquoi il a mis avec
Bah,
il est amoureux, enfin.
Non, bah, attends, elle était jeune, donc faut pas exagérer, elle avait 10 ans, la gamine. Non, c'est juste qu'il l'aimait bien, ils avaient passé un super bon moment, c'était un peu comme si c'était son grand-père, quoi.
Par contre, le TARDIS est très disco dans le 2, hein. Déjà
oui,
dans le premier.
Encore plus.
Alors, dans le premier, c'était un cap par-ci, un cap par-là, enfin, c'était un garage, quoi. Voilà, et là cette fois-ci il y a des néons partout en fait, des néons en forme de rond mais moche, mais partout quoi, donc c'est disco quoi.
Oui.
C'est type canine.
Mais c'est boîte de nuit, tu sais, à la fin.
Ouais.
On sait pas ce que fait le docteur dans le TARDIS. Hein.
Ouais.
Enfin bref, c'est pas un truc à conseiller. Enfin. Curiosité,
non.
Et ça ne fait pas partie de la série. Hein. Je tiens à bien rappeler, les films ne font pas partie de la série.
Et. Heureusement, par contre, tristement, le téléfilm de 96 lui en fait partie.
Mais on en a déjà parlé.
Mais on n'en reparlera pas.
Non. Bah voilà, j'ai tout dit.
C'est vrai.
C'est fini.
Oh.
C'est un épisode un peu court.
Ouais. Oh non, ça va ? Combien de temps ?
Bon, moins d'une heure. 46
bah voilà,
minutes.
Les gens sont contents. Hein.
Voilà.
Bah ouais.
Donc, prochain.
Ah si, je peux poser une petite question rapidement.
Oui, vas-y.
Vous avez des idées de quoi pourrait parler la saison 7 de Doctor Who?
Bah, j'ai posté un sujet sur le forum.
Je sais. C'est voilà. T'as une idée ou pas? Parce
voilà.
Que justement, vous pouvez donner votre avis sur Gallifrance, mais
voilà.
Tu sais de quoi? Parce que moi, je vois pas du tout quoi. Peut-être de River Song.
Oui, à mon avis, ça va tourner encore autour de River Song.
Ou peut-être qu'il va y avoir un nouveau personnage.
À mon avis, ça sera comment le. Vous voyez dans l'épisode La Bibliothèque des Ombres, River Song, elle a survécu, elle a survécu en guillemets, son esprit a été téléchargé dans l'ordinateur grâce au tournevis sonique, parce que le docteur avait pensé à corps.
Je pense pas que ce soit ça. Parce
à mon
que
avis,
un...
ça.
Je vais pas être méchant, je vais être méchant quand je vais dire ça, mais bon, mais c'est normal. Mais avec les mini-épisodes qu'il y a sur le DVD que je n'ai pas encore vu, mais je sais que c'est principalement sur du River Song, j'ai l'impression que Steven Moffat, il fait tout pour nous caser River Song dans la série.
Mais ouais.
Parce que t'as l'impression qu'il parle que d'elle à chaque scénario qu'il écrit.
Ben, c'est un petit peu son personnage.
Donc,
quoi.
Si la... Oui, non, mais si la saison 7 est encore sur River Song, je pense que le public va peut-être se lasser là. Parce que bon.
Oh,
de
toute façon, je pense que vu que les gens commencent déjà un petit peu à crier, hein, on voit ça un peu partout.
Oui, heureusement.
Je pense qu'il va s'en rendre compte, quoi.
Mais j'espère.
Mais bon, moi, le personnage de River Song, je m'en suis toujours foutu plus ou moins, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est que...
c'était. Oui, c'était un personnage intéressant, mais dès que tu regardes la... dans la saison 5, elle est intéressante. Mais dès que tu regardes les deux premiers épisodes de la saison 6, tu dis bon, c'est bon quoi.
Oui, c'est gâché quoi. Et mais puis, totalement... bah, c'est ce que je disais. Et c'est ce que je disais pendant le
temps. Oui, oui, non, parce que là, je me remate les saisons et des épisodes des fois au hasard. Des épisodes, je clique au hasard, je tombe sur un épisode, je me le regarde. Comme ça, je sais pas sur lequel je tombe et je suis surpris. Franchement, c'est vrai que. Qu'en regardant avec le recul, parce que quand on regarde sur le moment, c'est génial, mais quand on regarde bien, des fois, c'est vrai qu'il aurait pu faire mieux et que finalement, si on regarde bien, Moffat a des petits défauts. Mais bon, en même temps, avec tout ce qu'il fait en même temps, il te fait le scénario de la première partie de Tintin, le film, que je n'ai toujours pas vu, que oui, j'imagine que Jonathan ne regardera jamais.
Si, je regarderai, mais je ne paierai pas pour le voir, c'est différent.
Ah, tu le téléchargeras illégalement, bravo!
Peut-être!
Bravo!
Peut-être.
Ah non,
c'est pas fait.
Ah, tu le regarderas sur la BBC vu que t'as le satellite chez toi.
Voilà.
Exactement, c'est la bonne vieille.
Non,
antenne satellitaire.
Non mais c'est vrai que non mais j'ai l'impression que Moffat devient un mauvais scénariste quoi et qu'il essaye de nous caser
pas
des trucs
mauvais,
de force.
Pas mauvais, il bâcle un petit peu mais pas mauvais.
En fait, c'est un peu le même effet qu'avec Russell T. Davis sur sa fin, c'est-à-dire qu'avec The End of Time.
Il est meilleur que Russell T. Davis.
Non.
Oui, oui, non, mais c'est pas ça. C'est que dans The End of Time, Russell T. Davis nous casait toutes ses dernières idées. Il essayait de mettre le maximum d'idées, tu sais, pour pas forcément pour plomber la série, mais je veux dire, il essayait de mettre vraiment tout pour faire le meilleur épisode. Steven Moffat, il nous fait la même chose avec River Song, sauf que lui, c'est pas la fin, c'est tout. Il est encore qu'au début de sa période, et ça fait déjà deux saisons, quoi.
Avec le défaut, non, parce que la saison 5 était très bien. Peut-être le problème avec la saison 6, c'est avec son arc narratif là, son
qui devient trop complexe, qui
ouais, non, on dirait que ça a trop
canalisé l'histoire.
Non, trop empié sur toute la saison. Tu sais, dans les autres saisons, t'avais l'histoire des abeilles, t'avais Torchwood ou Bad Wolf, ça allait quoi. Ouais. Là, c'est vrai que ça empiète trop.
Alors dans Doctor Who, c'est l'histoire de. Tu parles de l'histoire des disparitions des abeilles.
Oui.
Oui.
Est-ce qu'il se serait pas inspiré de l'histoire de la disparition des baleines des dauphins, pardon.
Non mais les abeilles. Non, c'est parce que c'est une vérité scientifique. Ah non mais c'est que les abeilles disparaissent vraiment, c'est pas une blague.
Ouais.
C'est embêtant d'ailleurs, c'est chiant. Mais c'est pour ça que c'est inspiré. Mais je veux dire, c'est là Steven Moffat pendant la saison 6. Ouais. Elle n'a pas un fort pouvoir de revisionnage. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas une saison où tu peux prendre un épisode facilement pour le revoir. Parce que dedans, il y a forcément un élément de l'arc narratif qui va t'obliger, disons, à revoir un épisode. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes individuels qui sont séparés de l'arc.
Ah si, c'est vrai, entre, tu sais, ceux qui sont entre l'esquilé Hitler et le dernier, tu sais, Closing Time. The God Complex, Night Terror et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, avec Amy en plus âgé.
The Girl Who Hated.
Voilà.
Non mais oui, il y a ces épisodes là, mais je veux dire, les épisodes de Steven Moffat qui sont généralement les meilleurs, là, pour ceux de la saison 6, c'est les plus mauvais.
Oh non.
Mais non, maintenant, tu vas pas me dire que le double épisode qui se passe aux États-Unis est passionnant, alors qu'il aurait très bien pu se passer en un épisode, si on avait retiré tous les plans de haut des États-Unis, du désert, qui ne servent strictement à rien.
Ça divertit.
À quoi nous sert la course poursuite, sincèrement? À rien.
La course poursuite.
Je veux dire, ça sert à rien. En plus, ce qui est balèze, moi je trouve, c'est qu'il recycle carrément une idée de la Pandorica de la prison dont on ne peut pas s'échapper dans cet épisode-là pour finalement s'échapper au dernier moment. Donc. T'as l'impression qu'ils réutilisent les mêmes morceaux mais dans un ordre différent. Donc c'est pas
non,
ça.
C'est pas. Non, je suis pas d'accord.
Non, enfin, moi, vous avez compris, mais j'aime pas la saison 6.
Mais ouais, de toute façon, t'aimes rien.
Mais je m'en fous, il y en a qui étaient d'accord avec moi.
Oui, mais pas tous.
Mais il y en a.
Et on est une majorité.
Non.
Hein, ouais.
On fera un vote.
Bon, bah voilà, c'était oui, un y petit
avait,
bonus.
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas des petits votes comme ça sur le forum. Avez-vous aimé la saison 6 satisfait?
Bah, si vous participez, oui, il y en aura.
Ouais.
Et ah, voilà, c'était un petit bonus. Un petit bonus voilà. De fin.
Voilà.
Histoire de rallonger la durée de l'épisode.
Peut-être un petit bonus, Thomas nous chantera une chanson.
Allez, non, non, ce sera pour le prochain. Ce sera pour l'épisode 150.
Ah, ok, ce sera pour le prochain.
Non, l'épisode 150.
Ok, pour la 50e.
Peut-être. Bon, bah, prochain épisode, on va peut-être faire quelque chose de différent. J'ai peut-être quelques petites idées avant de partir en vacances.
Eh, quand même, juste quelque chose à dire. Je vais spoiler pour le 50e. Il y aura comme invité Steven Moffat, Matt Smith, Karen Gillan, hein, et tout ça dans nos cœurs. Voilà, ils seront là dans nos cœurs. Ils seront là dans nos cœurs pour la 50e.
Ah oui, ça, c'est du spoil. Hein.
Ouais. Ouais.
Bon, voilà. Bah, voilà, prochain podcast et puis bah va vous.
Ouais, va vous.
C'était le Gallicast, va vous.